Et donc, on est quand même là pour se poser les bonnes questions, Mais par exemple, quel serait donc le lien entre capitalisme et colonialisme? Sont-ils solidaires? Sont-ils complémentaires? Peut-on se passer l'un de l'autre? Sont-ils deux systèmes inéluctables? Et surtout, pouvons-nous mettre en place certains processus de lutte? Nous allons ensemble essayer de répondre à ces questions, du moins essayer de s'en rapprocher. Et pour nous aider, nous pouvons compter sur une pro de la décolonisation. Rien ne lui résiste. Elle va vous décoloniser de bière et de vin votre frigo ou votre frigo box en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. J'accueille à mes côtés Nat.
Bonjour.
Bonjour Nat. Ravi de te retrouver. Pour cette nouvelle émission. Et aussi, nous allons essayer de notre côté de rester le plus neutre possible. Mais justement, pour avoir un regard un peu plus critique, un peu plus professionnel, j'ai à mes côtés, dans les studios, Océane, qui est employée au Musée du Capitalisme. Musée du Capitalisme, qui est une initiative citoyenne, une ASBL, orientée autour d'un projet central, le Musée Nomade. Exposition itinérante et innovante sur le système économique et culturel. Elle sera d'ailleurs accompagnée de Thomas, qui est bénévole au sein même de ce collectif. Bonjour Océane et Thomas.
Bonjour.
Bonjour.
Vous serez aussi accompagné de Sanchou, chargé de la cellule enseignement et éducation au sein du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, dont le but est de former, sensibiliser et informer le public sur les différents enjeux, initiatives, combats qui sont menés sur les questions liées à l'histoire, à la mémoire et aux stéréotypes et aux préjugés. Bonjour Sanchou. Comment allez-vous aujourd'hui au sein même de ce village des possibles?
Très bien, très bien. Merci pour l'invitation.
Mais avec plaisir. On vous reçoit avec plaisir. Et vous vivez les premières minutes de l'ouverture de ce festival. Comment les vivez-vous ces quelques minutes?
C'est super. On est super contents d'être là. Le stand est installé. Les festivaliers commencent à arriver. Donc très bien.
Et très honoré d'ouvrir Radio Esperanza 2024 là, et de vous souhaiter bon anniversaire.
Merci, merci.
Et pareil, hein, content d'être là aussi parce qu'on revient chaque année et chaque année il y a cette volonté de changer les choses, de parler de nouvelles thématiques qui touchent nos quotidiens. Et il y a encore cette année-ci, donc on est content de revenir et d'ouvrir le bal. Merci.
Oui, c'est ça que thématique, donc on le répète, thématique du village des possibles, c'est Omerta Colonial, Réveil International. Et je pense que vous êtes quand même deux associations, deux ASBL qui, somme toute, se retrouvent au sein même de cette thématique. Et donc, par exemple, je ne sais pas par où commencer, vous avez entendu les différentes questions. Et d'ailleurs, une de mes questions qui est complètement sincère, comment peut-on faire le lien entre capitalisme et colonialisme? Parce qu'on fait toujours face à des gens qui ne font pas ce lien-là.
Alors, pour nous, c'est très simple. Hein. On dit que le capitalisme et le colonialisme, c'est les deux faces d'une même pièce. En fait. Le colonialisme est créé via le capitalisme. Et le capitalisme est créé grâce aux outils et à la force de travail, au capital que met à disposition le système colonial. Donc l'un est créé par l'autre et l'autre enrichit l'autre. C'est vraiment une machine qui s'entretient. Donc, voilà. Et donc l'un des éléments qu'on dit aussi nous, souvent au collectif Mémoire Coloniale, c'est que pour comprendre le système colonial, donc pour comprendre la colonisation, il faut suivre le fil rouge, qu'on appelle le fil rouge. Et le fil rouge pour nous, c'est l'argent, c'est le système économique pour comprendre le système colonial. Et ça revient dans toute une série de choses hein, quand on parle de Léopold II qui dit « Moi, je vais au Congo pour civiliser les Congolais et pour mettre fin à l'esclavage commis par les Arabes, les Arabo-Swahili Zanzibar ». C'est les arguments que Léopold II met en avant au départ, mais en creusant un peu, on se rend compte, et justement en suivant le fil rouge dont j'ai parlé, on se rend compte que le seul objectif de Léopold II, c'est de se faire de l'argent. Et donc, tous les textes que vous lirez à l'époque, que Léopold II met en avant, que ses collaborateurs ou les journalistes produisent à l'époque, disent une chose, c'est il faut une colonie, car tous les autres en ont une, économiquement on en a besoin. Donc on se rend compte à quel point on a beau dire tout ce qu'on veut en termes de justification, mais finalement on revient sur le fil rouge qui est l'économie. Et donc la question des mains coupées et tous les crimes commis au Congo le montre aussi, c'est que si on veut être un système qui met fin à l'esclavage au Congo et qui veut civiliser entre guillemets les Congolais, en fait on vient pas comme on est venu en tout cas. Et donc l'entreprise coloniale a été une entreprise qui était totalement humaine et qui a été totalement capitaliste en fait, uniquement pour des questions d'argent. C'est le lien qu'on peut faire entre les deux. C'est vraiment,
Oui, c'est ça. Et de toute façon, c'est des réflexions qui sont toujours actuelles, même si on ne parle plus de, colonie. C'est toujours de néocolonialisme. Et là, je me retrouve un peu vers le musée du capitalisme qui analyse, et comme tu dis, le fil rouge est bien l'argent. Je suppose que je ne dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire Sam. Donc nous, on a une exposition itinérante sur le système capitaliste, et on trouvait que tout ce que vient de décrire Sam, ce lien entre colonisation et capitalisme, ne ressortait pas assez dans notre exposition. Il faut savoir que c'est une exposition qui a été conçue par un groupe d'étudiants belges blancs il y a 10 ans. Quelque chose qu'on annonce bien en début d'exposition, notamment quand on fait des visites guidées. L'exposition a vraiment été faite avec ce point de vue spécifique eurocentré. Et donc on estimait aujourd'hui que c'était plus suffisant d'annoncer ça et de dire de quel point de vue était située l'exposition, mais qu'il fallait vraiment que ça soit beaucoup plus apparent, toutes ces questions de colonisation et décolonisation aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a fait appel à Mémoire coloniale pour pouvoir être accompagné dans ce processus de décolonisation de l'exposition itinérante en elle-même, et pouvoir avoir leur expertise et leur avis sur notre exposition.
Exposition qui est actuellement en itinérance, où elle va débuter, elle a débuté.
Alors, l'exposition est tout le temps en itinérance dans toute la Belgique. Le collectif du Musée du Capitalisme, on a nos bureaux à Bruxelles, mais l'exposition est rarement à Bruxelles, en fait, maximum tous les 2 ans, on va dire. Et en ce moment, l'exposition est à Gand.
Est-ce que vous pouvez nous partager des ressentis de Mémoire coloniale par rapport à votre expo? Ou pas? On peut passer à une question autre.
Alors, vous voulez que je partage, moi, le retour de Mémoire coloniale?
Voilà, par rapport à votre expo de base.
D'accord, alors je vais essayer. Il y a quand même pas mal d'éléments sur la question lien colonisation capitaliste déjà dans l'exposition. Donc je pense que ça c'était apparent pour eux quand ils ont fait la visite de l'exposition, mais c'est juste que ça va pas assez loin en fait dans la démonstration de ce lien. Et après, heureusement, je pense qu'il n'y avait pas trop d'erreurs, entre guillemets. Mais c'était surtout vraiment mettre en avant ce lien et montrer comment le capitalisme n'a pas pu être fondé sans la colonisation, et comment il existe encore aujourd'hui grâce à ce rapport de domination envers les pays. C'est ce que j'ai retenu.
Tout à fait. Mais en fait, ce qui a été fait par le Musée du Capitalisme, qui est un outil déjà très intéressant, parce qu'il y a nécessité aujourd'hui de sortir de cette vision selon laquelle le seul modèle économique existant est le capitalisme. Parce que c'est comme ça qu'on va à l'école, à l'université, on a l'impression que le seul modèle qui existe c'est le capitalisme, donc on doit tous le suivre. Donc là, il y a déjà une initiative qui est très intéressante, qui montre qu'il n'y a pas que ce modèle-là est dangereux pour les humains et pour la planète. Donc effectivement, l'élément qui manquait là dans l'exposition itinérante du Musée du Capitalisme, mais comme dans tous les cours d'économie, dans toutes les écoles, c'est le lien avec ce passé esclavagiste et colonial. Notamment quand on parle de révolution industrielle. Souvent, à l'école, en fac d'économie, le capitalisme, l'un des moments clés du capitalisme, c'est la révolution industrielle. On dit que c'est à ce moment-là que les Européens ont découvert la machine à vapeur, ont inventé la machine à vapeur, c'est les bateaux, les chemins de fer, et toute cette émulation économique, donc les usines qui sont créées aussi, va en fait lancer un élan qui va qui va booster le capitalisme, en tout cas le mettre, enfin en faire un système économique important en Europe. Donc c'est là où la lecture décoloniale est intéressante, parce qu'elle vient montrer à quel point la révolution industrielle dont on parle ici en Europe, elle s'est pas créée toute seule. C'est pas les Européens qui eux-mêmes sont créés des machines, enfin des trains, des bateaux, etc. C'est des ressources naturelles qui sont venues de quelque part déjà, et un capital qui a été accumulé aussi pour arriver à cette révolution industrielle. Et donc ça, c'est ce que Marx appelle l'accumulation primitive, qui est tout le capital qui a été accumulé par les capitalistes à l'époque pour justement lancer la révolution industrielle. Mais on ne se demande jamais d'où venait ce capital-là. En fait. Et donc ce capital-là, il vient en fait des 400 ans d'esclavage. Donc ça, Marx le dit aussi dans ses écrits, et d'autres auteurs aussi le disent. C'est les 400 ans d'esclavage, donc c'est une main-d'œuvre quasiment gratuite dont les pays occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les grandes puissances coloniales ont bénéficié pendant 400 ans, et qui leur ont permis pendant ces 400 ans-là d'accumuler suffisamment de capital pour début du 19e siècle, fin du 18e, de en fait lancer cette révolution industrielle. Et donc on a des exemples qui sont très intéressants. Donc, on en a parlé durant la formation aussi avec le musée du capitalisme. C'est la compagnie orientale des Indes, qui est une compagnie britannique, qui va être en fait si on suit un peu l'évolution des modèles économiques, qui est une des premières structures qui ressemble plus ou moins au modèle capitaliste, qui montre un peu les prémices du modèle capitaliste actuel. On voit qu'il y a déjà une volonté à l'époque d'ouvrir le capital de l'entreprise à d'autres personnes, donc on peut acheter des parts dans cette entreprise-là. Il y a toute une série de logiques qui nous font penser au modèle capitaliste actuel. C'est pour ça que c'est une entreprise qui est assez illustratrice de l'évolution économique qui va amener vers le développement du capitalisme. Et donc cette compagnie des Indes, comme son nom l'indique, c'est une compagnie britannique coloniale. Donc en fait, elle a pour objectif d'aller dans les territoires possédés, en tout cas colonisés, occupés par la Grande-Bretagne, et de faire le commerce des matières qu'on y trouve, donc, le sucre, les épices, c'est toute une série de matières qu'on trouve là-bas, et donc c'est un peu le début du commerce aussi, une forme de commerce international qui est fait, bien entendu, via le système esclavagiste, entre autres. Et donc, je reviens là-dessus, donc sans comprendre donc ces 400 ans-là d'esclavage, on ne sait pas expliquer l'accumulation primitive et donc le développement du capitalisme fin du XVIIIe siècle. Donc souvent, quand je fais ces formations-là à des jeunes ou des personnes qui comprennent moins bien le système capitaliste, je vais faire un exemple assez facile à comprendre. C'est comme si vous avez une entreprise et que pendant 400 ans, vous ne payez aucun employé. Imaginez ce que vous gagnerez comme argent, parce que vous payez aucun employé, donc pas de, vous payez rien du tout, vous payez entre guillemets les entretiens des employés, c'est ce que les esclavagistes payaient, c'est de nourrir les esclaves, mais très très mal d'ailleurs, très très mal le nourrir, c'est l'entretenir au minimum pour le garder en forme pour qu'il puisse travailler dans la plantation. Et donc pendant 400 ans, cette accumulation-là a permis aux pays européens de s'enrichir. Le développement des États-Unis, c'est ça aussi. C'est, les grandes villes américaines sont créées sur le sang et la sueur des esclaves. Ça aussi, on ne le dit pas suffisamment. Et donc, c'est comme ça que 400 ans après, on arrive à la révolution industrielle et au développement du capitalisme. Et ce capitalisme-là, il va se développer encore plus par la suite, parce qu'on aura besoin de nouvelles formes de domination. Donc, c'est là qu'on lance le colonialisme. Donc, on va chercher des matières premières. Avant, c'était l'esclavage. On a accumulé suffisamment d'argent. On avance dans le capitalisme. Et puis, fin du 19e siècle, on colonise. Cette fois-ci, on doit aller sur les territoires africains eux-mêmes, chercher les matières premières qui s'y trouvent, parce qu'on en a besoin aussi pour la révolution industrielle et pour le développement du capitalisme ici en Europe. Voilà, c'est un peu cette introduction. Ce qui a été dit, mais c'est des éléments intéressants à savoir et à développer pour faire le lien. Et donc, c'est ce qu'on a dit, en tout cas, au musée du capitalisme, qui manquait dans les différents... différents panneaux explicatifs. En tout cas, la personne qui passait dans l'exposition ne pouvait pas comprendre directement en suivant l'exposition qu'il y avait ce lien-là entre capitalisme et colonialisme et esclavage et colonialisme aussi. Donc, ça nous semblait en tout cas important et primordial que si on veut expliquer le capitalisme, qu'on passe par ces deux phénomènes-là et qui sont finalement, comme j'ai dit au début, donc les deux faces d'une même pièce.
Ouais, merci pour cette petite introduction, justement. Et avant de passer mon regard vers Océane et Thomas, je vous propose une petite pause musicale. Nous écoutons Pete. Ah, si j'ai été riche.
Un Ah si j'étais riche, j'irais construire des petites maisons dans les prairies. Si j'étais riche, ah si j'étais riche, j'irais faire le tour du monde avec ma chérie. Si j'étais riche, je lève un verre à ma santé, à la tienne aussi. Si tu veux mon assiette, c'est la tienne aussi. Quand j'ai été payé, je dégaine la Fortis. Comme si j'étais 50, comme si j'étais Curtis. Le resto c'est pour moi, les pourboires aussi. Je te connais pas vraiment, je paye pour toi aussi. J'ai pas de permis, je loue une A6. Solde 0,36 avant le 26. Avant tout le partage, y'a des valeurs auxquelles je me rattache. Depuis l'époque de Jackass, depuis l'époque où on se prêtait nos atlas. Il prêtait pas son atlas, donc il restait seul au fond de la classe. Faut pas se voiler la face, tu finiras bien par céder ta place. Ah si j'étais. Si j'étais. Ah si j'étais. Si j'étais. Ah si j'étais riche, j'irais construire des petites maisons dans les prairies. Si j'étais riche. Ah si j'étais riche, j'irais faire le tour du monde avec ma chérie. Si j'étais riche. 104 BPM comme unité Don Bosco. J'achète une île pour moi et mes frères si je gagne au loto. À quoi ça sert de garder tout pour soi? Mentalité grand frère, grand François. On n'aime pas les radars, on traîne pas avec eux. Tous monnaie mais le respect s'achète pas. Dis-moi tu vas faire quoi? J'aurai pas de jardin, j'aurai une forêt. Et tous les matins j'irai dans le lac. Si je te vois jeter ton mégot par terre avec mes claquettes, je te mets des claques. J'aurai pas de voisins, j'aurai que des frérots.
J'aurai pas de voisins, j'aurai que des frérots.
Mais là je vais taffer, là je suis dans le métro. Ah si j'étais riche, j'irais construire des petites maisons dans les prairies. Si j'étais riche, ah si j'étais riche, j'irais faire le tour du monde avec ma chérie. Si j'étais riche, ah si j'étais riche. Si j'étais riche. Ah si j'étais riche.
Radio Esperanza.
Bah voilà, merci à vous pour toutes ces informations, c'est super intéressant. Du coup, moi j'aurais souhaité qu'on parle un peu plus de l'actualité plutôt que de l'histoire. Donc je me tourne vers vous, représentant du Musée du Capitalisme. J'aurais eu envie que vous nous parliez un peu des alternatives que vous proposez au capitalisme.
Mais peut-être encore préciser d'abord notre processus, parce que là on est déjà sur les questions de fond, mais juste pour que les gens comprennent, en fait c'est Océane qui est venue avec cette idée d'un groupe de travail sur la question de la décolonisation du musée du capitalisme. Et donc on a déjà fait pas mal de lectures, de recherches par nous-mêmes, puis on est allé à des conférences du collectif, puis le collectif a fait une formation interne, où c'était chouette parce que c'était avec des gens du collectif qui étaient aussi, on va dire, étudiantes. Et puis après, il y a eu cette visite guidée où le collectif Mémoire Coloniale est venu. Donc c'est vraiment un processus qui prend du temps. Et on n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire exactement de toutes ces informations. Okay. Par contre, dans le cadre du Festival Esperanza, si les gens viennent dans notre stand, ils verront déjà qu'on a une proposition d'actualisation, donc de modification d'une bâche importante qui était qui développe qui, et où grâce aux réflexions qu'on a eues avec le collectif, on a modifié certaines choses et rajouté certaines choses, et donc dans les clichés qui peuvent exister dans les transferts d'argent entre le Nord et le Sud, en le grand cliché qui est de toujours dire que c'est le Nord qui aide le Sud, en fait il y a beaucoup d'argent aussi qui transfère des deux, enfin d'autres, par exemple l'argent que la diaspora ramène dans les pays du Sud, c'est 700 milliards, si je dis ça de mémoire. Et puis alors, voilà, y a la question de évidemment l'aide au développement. Et puis de l'autre côté, y a toutes les règles commerciales, l'évasion fiscale, le remboursement des dettes illégitimes. Donc ça, c'est toutes les sommes qui sont extorquées des pays par les pays du Nord aux pays du Sud, ou alors qui ne sont pas, c'est des évasions fiscales. Donc c'est pas de l'argent qui est directement enlevé, c'est plutôt de l'argent qui n'est pas payé en fait aux pays du Sud. Quand on pense aux règles du TTIP, par exemple. Et donc ça, c'est déjà un exemple concret de quelque chose qu'on essaye de faire dans le musée. Et après, on réfléchit aussi à se dire, est-ce que ça va traverser tout... Parce que nous, on fonctionne par focus, donc on parle aussi bien d'environnement, de travail, de santé, d'énergie. Et donc, on pourrait imaginer qu'on refond tous les focus avec cette question-là. Où on a aussi la possibilité de travailler sur des visites guidées thématiques. Et donc, on a aussi eu un groupe de travail qui a réfléchi pendant longtemps sur la question de genre et capitalisme. Et donc maintenant, on propose des visites guidées sur cette thématique-là au musée. Et donc, voilà, là, c'était pour vous dire que sur la forme que ça va prendre, on n'a pas encore tout à fait de réflexion. Et alors, sur... Concrètement, quand tu parles d'alternatives, voilà, il y a une dame qui s'appelle Françoise Vergès qui a réfléchi sur la question de décoloniser les musées en général, en se basant notamment sur le musée Tervuren. Et nous, c'est par exemple les références qu'on prend. Et donc, c'est des questions, évidemment, convergence des luttes penser à toutes et tous. C'est, on se rend compte que les auteurs, penseurs, économistes, c'était des hommes blancs. Qu'on avait par exemple à un endroit où on a des citations, donc il y avait la question de prendre des femmes, maintenant il y a la question de prendre des penseurs économistes, par exemple Fellou Insar au Sénégal. Ça peut être à plein d'endroits qu'on peut déjà aussi faire des améliorations entre guillemets sur cette question là, c'est prendre en compte toutes les personnes qui vivent dans notre société. Et comme l'a dit Océane au départ, on a pensé ça en tant qu'homme blanc aussi universitaire. Et donc, il y a la question aussi de l'accessibilité, la compréhension. Et là, récemment, on a eu une personne qui était employée et qui n'avait pas de diplôme universitaire. C'était la première fois depuis 2016 que ça nous arrivait, par exemple. Et donc, je pense que c'est des choses qui permettent un peu de faire évoluer aussi le fonctionnement interne du musée. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a à la fois l'exposition que les gens voient, et puis il y a notre fonctionnement interne aussi qu'on essaie de faire évoluer.
Ok, merci beaucoup. Du coup, je voulais rebondir sur la convergence des luttes dont tu parlais et m'adresser à Sam. Je vous ai posé la question sur les alternatives. Est-ce que Sam, tu as envie de partager aussi ton point de vue sur la colonisation actuelle et le capitalisme
et déjà, c'était important de revenir sur... Tu l'as dit au début en disant qu'on avait parlé du passé et que maintenant on avait parlé de l'avenir. Pour nous, il n'y a pas eu de coupure, justement. Et pour nous, le système dont j'ai parlé au début, donc le capitalisme et son lien avec le colonialisme et le système esclavagiste, ne s'est jamais arrêté. En fait, il n'a fait que muter au fur et à mesure. Donc au départ, c'est l'esclavage qui va muter et changer, devenir du colonialisme, parce qu'on décide cette fois-ci de comme un célèbre auteur dont j'ai oublié le nom, dit béninois, va dire... coloniser, c'est faire l'esclavage à domicile. Donc on a fait l'esclavage autrement avant, cette fois-ci on décide d'esclavagiser à domicile, donc c'est la colonisation. Et fin des années 60, les leaders indépendantistes et les militants et militantes africains africaines arrachent leurs indépendances, mais sont très vite bloqués par volonté de néocolonialisme. Et donc le système ne s'est jamais arrêté, il a juste continué et s'est perpétué. Et donc une des manifestations du néocolonialisme, comme Thomas vient de le dire, c'est l'aide au développement, la coopération au développement, les fameux transferts nord-sud, et le système économique mondial, en fait, qui reste un système économique qui oppresse et qui fait travailler les périphéries, ce qu'on appelle la périphérie, c'est tous les pays du sud, des sud, du sud global, pour le nord. En fait. Et donc le système colonial, il est resté, il existe toujours aujourd'hui, il a juste changé de forme à chaque fois. Donc c'est important, aujourd'hui, dans tous les aspects de nos vies, il y a du colonialisme. Dans l'alimentation, il y a du colonialisme. La banane qu'on mange tous les jours, elle pousse pas en Belgique. Notre nucléaire, dont on parle souvent ici dans les débats belges, il vient pas des mines de Charleroi. Je peux prendre plein d'exemples de nos vies quotidiennes, qui sont des exemples qui montrent à quel point nos économies et nos vies quotidiennes sont
sont en fait liées au colonialisme, parce qu'on a besoin de coloniser pour avoir ce mode de, le mode de vie que nous avons ici en Europe aujourd'hui dans le Nord. Donc c'est important, si nous voulons décoloniser, c'est, enfin, effectivement il y a convergence des luttes, c'est que dans tous les sujets, dans toutes les thématiques, il y a de la décolonisation. Là on parle d'économie avec le musée du capitalisme et du système économique, il y a de la décolonisation. On parle de féminisme, là aussi il y a de la décolonisation. On parle de d'histoire, là il y a de la décolonisation. Donc c'est pour ça que nous on aime souvent dire qu'on n'est pas un collectif d'historiens, on est un collectif de, on est des militants qui font de la décolonisation. Donc décoloniser ça passe par l'histoire, mais ça passe aussi par autre chose, donc la mémoire par exemple. Et donc voilà, on pourrait passer par d'autres choses, mais tous les aspects de nos vies sont liés à la colonisation. Et donc décoloniser, c'est donc faire en sorte que nos sociétés se débarrassent du colonialisme. C'est tout simplement ça. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire nous à travers nos formations dans les écoles, parce que le système d'enseignement belge n'est pas encore au point sur la question de l'enseignement de l'histoire coloniale et donc l'enseignement de la décolonisation aussi. Donc on fait un travail très important là-dessus pour pousser les autorités à avancer. Parfois c'est les profs eux-mêmes qui nous contactent et qui veulent travailler là-dessus avec leur classe. Dans les universités aussi, on s'est rencontrés comme ça avec le musée du capitalisme, c'est une conférence qu'on a fait à l'université, à l'ULB, avec des étudiants en économie de Solbosch, enfin de Solvay, pardon, de Solvay, qui voulait travailler sur la question, sur le lien entre capitalisme et colonialisme. Donc c'est à travers ces, ce qu'on appelle justement la convergence des luttes et donc les collaborations qu'on arrive à décoloniser, parce qu'il faut que tous les points de notre société soient décolonisés. Donc ça, c'est un peu le travail que nous on fait au collectif, et notre stand ici au village des possibles est là aussi pour ça. Donc c'est proposer nos outils et montrer comment on travaille, en fait, concrètement.
Bah, et pour compléter ce que tu dis, sur un autre stand, là, juste à côté de chez nous du musée, nous avons le CNAPD. Et donc là, c'est sur la question de la guerre et des armes qui servent pour la guerre. Et donc leur animation, c'est pour essayer de comprendre, enfin pour arriver à comprendre que il faut installer les bases militaires des différents pays dans le monde. Et évidemment, les bases militaires ne sont pas là pour uniquement défendre la zone, j'ai envie de dire surtout pas, mais surtout pour protéger des minerais ou des entreprises et tout ça. Mais et elle disait, le chiffre, c'est un tiers des militaires américains sont hors, sont déjà basés à l'étranger actuellement, quoi. Donc c'est assez énorme. Et donc on peut aller à leur stand. Et alors c'est assez chouette parce qu'ils ont une carte du monde qui est la carte de Peters, et qui, avec l'Afrique au centre, est inversée. Et alors aussi les tailles, enfin il y a plein de proportions intéressantes. Donc c'est aussi quelque chose qu'on avait envie de réfléchir, parce que nous, au début du musée, dans la salle origine, on a une grande map monde et c'est la classique eurocentrée. Et donc on s'est déjà dit que ça, ce serait un truc radical à faire, ce serait de mettre une autre map monde. Et là, tout de suite, les gens devraient réfléchir autrement en rentrant dans le musée.
Effectivement. Et donc là, c'est aussi une autre thématique, c'est la géographie. Hein. Mmh. Donc, c'est la carte de Mercator qui est communément utilisée par tout le monde dans les classes, dans les salles de classe, etc. Qui est une carte profondément coloniale parce que c'est une vision eurocentrée de la géographie, dans laquelle l'Afrique est tout à fait, dans laquelle l'Europe est mise en avant, donc elle est agrandie beaucoup plus que sa taille réelle, donc où par exemple le Groenland et l'Afrique font quasiment la même taille, alors que dans la réalité le Groenland entre 14 fois dans l'Afrique, dans le continent africain. Donc là aussi, c'est ça qu'on a rencontré la ministre de l'enseignement en 2017, elle nous disait qu'il n'y avait pas assez de place pour enseigner l'histoire coloniale dans l'enseignement belge. Donc nous, on disait qu'il y avait de la place, on disait que dès la maternelle et jusqu'à l'université, il y avait moyen de décoloniser justement via différentes matières, parce que souvent le stéréotype, c'est de dire faire de la décolonisation, c'est faire de l'histoire coloniale. Donc nous, c'est pas du tout ce qu'on dit. Nous, on dit dans toutes les matières, on doit décoloniser dans les mathématiques, dans la géographie, dans l'histoire, dans l'économie et dans toutes les matières qui ont été construites aussi par un savoir colonial comme la géographie notamment.
Moi, j'ai pas spécialement des questions. Je me retourne vers Nat. Enfin, si, moi, j'ai une question. Mais.
Ben moi, j'ai plein de questions, mais je regarde François concernant l'horaire, parce que je pense qu'on arrive peut-être à la fin doucement de l'émission.
Ok. Je peux quand même la poser un peu.
Ah, ben oui. Je te consultais juste.
Oui, mais ma question, elle est toute bête et pratico-pratique pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce sujet-là. Je ne vais pas vous le cacher. Maintenant, je réfléchis à l'aspect concret de décolonisation du commerce, par exemple. Parce que tu ne veux pas dire que décoloniser et d'arrêter le commerce, je crois.
Mais déjà, les règles commerciales actuellement sont tout à fait inégales. Donc, je pense qu'en passant dans le temps, vous verrez les chiffres en fait, de ce que rapportent enfin, ce que rapporte l'illégalité ou l'inégalité du commerce international à l'Europe.
660 milliards.
Voilà, effectivement. Donc en fait, l'Europe bénéficie de ça. Et donc un très bon exemple, c'est l'exemple du lait. En fait, il y a eu quelques années, il y a eu une grosse mobilisation ici à Bruxelles, devant le Parlement européen, d'agriculteurs africains, d'Afrique de l'Ouest et européens. Et donc la revendication, c'est sur la question du lait. Pourquoi ? Parce que le lait qui est vendu en Afrique, de l'Ouest notamment, c'est du lait qui vient d'Europe, mais dans lequel on retire tous les produits entre guillemets qui sont bons, et on le vide de tout, on retire la graisse et tout ça, etc. Et puis on l'engraisse avec de l'huile de palme, et en fait on le transforme en poudre. Et donc cette poudre-là, c'est ce qu'on appelle le lait en poudre, est transférée dans les pays pauvres, en Afrique de l'Ouest notamment. Et moi j'ai grandi au Congo, et toute ma vie j'ai bu du lait en poudre, quasiment. C'est du lait qui vient d'ici. Et donc ce lait-là, quand il entre dans les marchés africains, donc il est introduit dans le marché d'Afrique de l'Ouest, en tout cas via le commerce international. C'est l'Europe qui dit à l'Afrique, faisons du libre-échange justement, dans le capitalisme, faisons du libre-échange. Nous, on fait entrer nos produits chez vous et vous faites entrer vos produits chez nous. Sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. Pour que les produits africains entrent en Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, les produits européens entrent beaucoup plus facilement en Afrique. Et quand ils entrent en Afrique, ils sont vendus à très bas coût. Et donc ils font concurrence aux agriculteurs locaux. Donc, les producteurs de lait ouest-africains se sont retrouvés en concurrence avec des produits mauvais pour la santé, premièrement, et qui leur faisaient concurrence d'un point de vue économique. Donc, leur lait coûtait beaucoup plus cher sur le marché. Et donc, face à ce constat-là, ils sont venus faire des manifestations ici en Europe avec les agriculteurs européens, parce qu'eux aussi sont pris dans ce système-là. Et finalement, convergence de lutte, c'est ça aussi, c'est dire agriculteurs en Afrique et agriculteurs en Europe font face à un même système qu'est le capitalisme, qui les broie tous les deux en fait. Donc comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? C'est en collaborant et en trouvant des mécanismes qui permettront à ce qu'ils s'en sortent. Mais pour l'instant en tout cas, ça fonctionne pas du tout. Et donc c'est ce qui fait aussi, ce qui peut expliquer vulgairement aussi l'immigration, c'est que quand ces éleveurs-là, ces pêcheurs aussi, parce qu'il y a la question de la pêche aussi dans les côtes africaines, quand ils se retrouvent au chômage, puisqu'ils sont en concurrence face à des produits européens qui sont à bas coût, en fait ils n'ont plus rien d'autre à faire que d'essayer de fuir la misère de leur pays et de venir dans les pays vers où la richesse mondiale se concentre, en fait, et c'est les pays du Nord. Et donc, c'est ces personnes-là qui viennent gonfler les rangs de la migration européenne. Donc c'est important aussi de comprendre ces mécanismes dans ce sens-là, parce que tout se relie un peu petit à petit. Et donc, voilà.
Ben merci pour ta réponse. Est-ce que c'est la même chose, Thomas? Tu as cité tout à l'heure le TTIP. Est-ce que c'est la même réflexion par rapport à ce genre de traité un peu...
Alors, c'est la même réflexion que... Excuse-moi, parce que je...
Mais que Sanjou vient d'avoir sur le revoir les règles au sein même de l'économie pour un commerce un peu plus équitable, ou du moins qui rend l'appareil où tout le monde serait sous un même pied d'égalité.
Alors, Océane est spécialiste de cette question.
Oui, c'est la même logique dans le sens où, en fait, toutes ces inégalités... elles sont construites dans le système même. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tous ces accords internationaux de commerce et financiers, ils sont définis par les institutions internationales. Donc là, ça concerne principalement la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce. Ouais. Et ces institutions sont des institutions qui sont dominées par les pays riches et donc qui imposent leurs règles. Et donc du coup dans notre bâche aussi dont a parlé Thomas tout à l'heure, qui développe qui, c'est ça qu'on essaye de montrer aussi, c'est que tous ces flux qui partent du sud vers le nord, c'est pas un hasard, c'est littéralement construit dans ce système international de commerce et d'échange.
Ouais. Et tu parlais du lait, mais on peut prendre l'exemple aussi du poulet, quoi.
Du poulet, du il y a aussi l'exemple du coton, ouais. Début des années 2000 avec le... les pays d'Afrique de l'Ouest qui produisent du coton, qui respectaient les règles de l'OMC, mais qui malgré ça ont été quand même... c'est une longue histoire, hein, mais en tout cas, même quand on est dans les règles de l'OMC, du commerce mondial, on est quand même dominé. Et donc, in fine, on finit par être broyé par la machine parce que les puissants, en fait, l'emportent sur les plus faibles.
Donc on envoie nos poulets congelés grâce à la PAC en Afrique, alors qu'il y a des poulets locaux, j'ai envie de dire.
Clairement.
Donc, et les gens mangent des poulets congelés européens, quoi, qui coûtent moins cher que les poulets locaux. Voilà, merci la PAC.
Donc il y a aussi l'Union européenne parmi les institutions qui font du commerce international. Donc typiquement l'exemple du lait, c'est l'Union européenne qui signe des accords de partenariat économique, donc des APE, avec des zones du monde, dont l'Afrique de l'Ouest et certaines zones d'Afrique aussi.
J'ai plein de questions.
On peut se voir après.
Ouais, avec plaisir. Bah oui, parce qu'on viendra évidemment tous découvrir vos stands, vous les redécouvrir. Peut-être juste ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, pour lutter contre la PAC et les autres systèmes de domination.
Mais moi, je pense sincèrement que chacun et chacune avons notre place et notre rôle dans la déconstruction de ces systèmes-là. Vous, c'est entre autres, entre ici, c'est tenir la radio et nous inviter pour en parler. C'est déjà une bonne chose parce que ça permet d'avoir un contenu qui pourrait être écouté par d'autres personnes. Nous, notre rôle, effectivement, c'est de produire du contenu et c'est militer sur ces questions-là concrètement, la question de la décolonisation, vis-à-vis du capitalisme et sur le capitalisme. Je ne sais pas ce que vous faites exactement de votre côté, mais je pense que chacun et chacune, dans son domaine d'expertise et dans son champ d'action, peut agir pour déconstruire, enfin, en tout cas, expliquer ce qu'est le système capitaliste, ce qui fait de mal, et comment on le décolonise, en fait, et comment on décolonise de manière générale notre société qui est encore tout à fait coloniale.
Et venir au musée du capitalisme, évidemment, ça c'est déjà un acte citoyen extraordinaire.
J'allais vous poser la question de savoir si, si on peut accueillir, si quelqu'un désire accueillir le musée du capitalisme, quelles seraient les démarches à suivre ? Vous contactez, vous téléphonez,
je ne sais pas. Alors le musée en ce moment, il est donc à Gand, comme l'a dit Océane, et puis on est en... Voilà, on n'a pas encore de date concrète pour la suite, on sait qu'on sera à Bruxelles, à Andenne, à Liège, enfin c'est en mai... Tout n'est pas encore arrêté, donc les jeux sont ouverts. Et donc souvent, c'est un collectif d'associations, en fait. Donc ce qui est assez chouette avec la dynamique qui a été mise en place il y a quelques années, c'est que soit c'est un centre culturel qui accueille, mais nous, on souhaite qu'ils mettent en place une plateforme d'associations, surtout au niveau de la transition en général. Mais par exemple, à Liège, là, il y avait une envie de, des maisons médicales, une fédération de maisons médicales. À Gand, c'est plutôt un syndicat. Qui nous a fait venir, mais souvent donc, le musée est le point de départ d'une, de toute une réflexion locale et on n'est pas très cher, donc c'est tout à fait en fait la vraie contrainte c'est l'espace, c'est parce qu'en fait c'est, les musées prennent à peu près 250 mètres carrés et donc souvent, et c'est deux jours de montage, un jour de montage, c'est une grosse camionnette à louer et donc c'est pas comme un spectacle qu'on peut jouer une journée, donc souvent on essaye de venir minimum 3 semaines, idéalement 1 mois, et donc la grosse contrainte c'est de mobiliser cet espace. Et ce qui est très chouette aussi c'est qu'on forme des guides locaux et donc il y a vraiment un, voilà, dans la dynamique d'éducation populaire, c'est que les gens du territoire s'approprient le musée et donc racontent leur histoire aussi avec des références locales. Mais pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est clair que toutes ces questions elles sont vertigineuses. Et donc, on peut vite être dans une sidération complète ou bloqué et ne plus ne pas savoir quoi faire. Alors moi, je dis un conseil, c'est de commencer une chose par une chose. Et donc, par exemple, c'est de savoir où on met son argent, si on en a. Bon, si on n'en a pas, c'est à la fois plus simple et pas plus simple. Ça dépend des points de vue. J'avais dit qu'il ne ferait pas d'humour. Mais, mais par exemple, c'est prendre ce temps de réfléchir à, voilà, bah, rien que si j'ai l'occasion de travailler, même si j'ai des allocations de chômage ou de CPS, bah, c'est d'avoir de quelle banque on, dans quelle banque on les met. Parce que quand on regarde, voilà, il y a aussi plein d'outils pour comprendre que les banques investissent dans des choses scandaleuses et tout ça. Bah, ça, c'est un petit truc. Et alors, on se dit, ah, mais non, mais ça, c'est complètement théorique. Non, c'est hyper concret, en fait. Récemment, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est dingue, la pollution. Alors ça, c'est plus sur les énergies fossiles, mais c'est l'argent qu'on met dans nos banques, c'est énorme en pourcentage. Et donc, entre guillemets, c'est tout bête, quoi. De changer de banque, c'est, voilà, ça prend des choses administratives. Alors, on ne va pas citer VDK ou Triodos, un peu moins Argentat, c'est un peu baissé, mais non, c'est VDK. Mais voilà, moi, je conseille aux gens, commencez par ça. Voilà, première chose. Et puis, après, il y a les vêtements, par exemple. Bah, c'est acheter plutôt du seconde main, des choses recyclées, évidemment pas acheter Amazon, ça. Enfin, il y a un plein de listes. Nous, on est disponible au musée pour discuter de ça. Je suis sûr qu'Océane a un conseil, par exemple.
Non, pas spécifiquement, mais
venir au musée, par exemple.
Oui, c'est ça. Venez au musée et puis oui, pour répondre à la question de base, si vous voulez faire venir le musée, il suffit juste de nous envoyer un petit message, nous appeler. On veut que le musée vienne chez nous et puis on vous explique tout, ce dont vous avez besoin, comment mettre ça en place et on vous accompagne là-dessus.
Nous, on n'a pas encore de musée, mais en tout cas, on peut aussi être accueillis. Donc on donne des formations, on fait des visites d'idées décoloniales, on est connu d'ailleurs pour ça. Donc on a actuellement plus d'une vingtaine de parcours en Belgique tout entière, donc Wallonie, Flandre et Bruxelles. On donne des animations dans les écoles, dans les associations comme le Musée du Capitalisme notamment. Et on crée des outils pédagogiques. D'ailleurs, on a créé un jeu de loi décoloniale récemment ici pour permettre de découvrir le système colonial, de comprendre ces personnages, ceux qui ont joué un rôle dans la mise en place de ce système colonial-là. Donc c'est vraiment une introduction au système colonial. C'est aussi, comme tu disais Thomas, c'est commencer petit à petit à comprendre déjà ce système-là, qui l'a créé, pourquoi il a été créé, etc. Et donc progressivement de comprendre les mécanismes et ce qui explique en fait l'actualité, notamment au niveau du racisme, du système international et autres. Donc voilà, on peut aussi être accueilli chez vous. Et donc voilà, il vous suffit d'envoyer un mail, nous écrire, nous appeler, etc. Et on est disponible.
Parce que j'imagine que vous êtes tous sur Internet.
Tous sur l'Internet.
Ouais. Sur l'Internet.
On dit même les Internets.
Les Internets, effectivement.
Excuse-moi. Hein,
on a plusieurs, c'est vrai. Ouais,
Musée du capitalisme.org. J'imagine
tout
la
simplement.
Question. Voilà. On est sur Instagram, on est sur Facebook. C'est formidable. Hein, on est en plein dans le capitalisme. Mais nous avons un groupe de travail capitalisme numérique. Et ça, c'est sérieux. Donc, il y a une visite guidée qui est presque prête sur cette question-là, et on travaille maintenant avec Domaine Public pour dégoogliser tous nos outils du musée. Donc on a nos incohérences, donc il faut accepter ces incohérences, mais travailler...
Mais on est en pleine transition numérique, donc ça devrait finir tout ça bientôt.
C'est mémoirecoloniale.be, et pareil, on est sur Instagram, Facebook, Twitter. Voilà, on n'a pas encore commencé à essayer de... mais voilà, on va essayer en tout cas.
Ben, bon courage. J'ai une petite dernière question. Enfin, je sais pas si elle est petite, mais l'émission de demain porte sur des thématiques féministes. Et tu parlais de décoloniser le féminisme aussi. Donc, est-ce que tu peux nous partager, donner des idées de quoi débattre demain, peut-être ?
Ben, au collectif, on a une cellule, puisqu'on a plusieurs cellules dans le collectif. On a une cellule qui s'appelle Femmes afrodescendantes et panafricaines, qui justement travaille sur les questions d'afroféminisme. Je pense que les membres de la cellule seraient vraiment plus pertinentes que moi pour parler de ça, mais tout comme les autres idéologies, hein, j'ai dit, c'est un phénomène qui se répète. Donc, comment on fait pour décoloniser un modèle, c'est quand, ou un système, c'est quand il est pensé en fait par le centre, par en fait des personnes qui détiennent entre guillemets le savoir universitaire, etc. Qui pensent le détenir en tout cas. Et donc là, le féminisme, clairement, il était influencé au départ par des personnes blanches qui ont lancé un mouvement, en tout cas, qui s'appelait féminisme. Et aujourd'hui, il y a des réflexions justement sur les féminismes, sur en fait comment ces féministes se sont construits et comment en fait ils peuvent être différents du féminisme blanc européen. Comment d'autres pensent différemment ces enjeux-là aussi. Et donc là, je pense que la réflexion, c'est ça, c'est se décentrer, c'est savoir se dire, bah, en fait, c'est moi qui pense comme ça, mais ma pensée n'est pas forcément supérieure à la pensée de l'autre. Et comment faire en sorte que, dans justement cette volonté de construire des ponts et de faire de la convergence des luttes, comment est-ce qu'on fait pour voir aussi ce que les autres font et donc l'accepter et ne pas le dénigrer, ce qui malheureusement est souvent le cas parce que il y a souvent ce complexe de supériorité qui fait que quand on est universitaire, quand on a un modèle qui est construit depuis longtemps, qui soi-disant a été créé par nous, ce que les autres apportent n'est pas forcément légitime parce qu'eux ne sont pas scientifiques, ne sont pas ceci, ne sont pas cela. Et donc là, il y a une nécessité de se décentrer aussi, et d'entendre ce que les autres disent et les expériences venues d'ailleurs. Donc, c'est tout ce que je peux dire là-dessus.
Ah, merci beaucoup.